Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors, quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui je réponds à Marion qui nous amène un sujet très intéressant sur l'éducation aux médias. Merci Marion pour ton message, on t'écoute tout de suite.
Bonjour Cédric, donc je laisse aujourd'hui un petit message afin d'aborder un sujet que je n'ai pas trouvé traité dans son intégralité dans un de tes épisodes. C'est ce que je nomme l'éducation aux médias. Donc j'aborde le sujet aujourd'hui parce qu'il a été évoqué dans l'épisode avec Eric Greff quand il... Vous abordez le sujet d'avoir ou pas un téléphone portable en primaire, je crois, pour au sujet de sa fille, et que tu dis, et à juste titre, que ben en France, c'est 9 ans l'âge moyen d'accès au premier film pornographique. Vous l'abordez aussi donc dans l'épisode sur les écrans et les tout-petits, où il est rappelé que c'est plus de 1% des enfants de moins de 6 ans qui ont déjà vu un porno. Donc, se dire que maintenant, la pornographie est un sujet qui relève de la toute petite enfance à mes yeux. Il faut l'aborder très vite, il faut être prêt, nous en tant que parents. Alors, moi, le sujet de la pornographie, je suis tombée dessus lorsque j'étais enceinte en regardant le documentaire d'Ovid D qui s'appelle Pornocratie, où elle aborde le changement avec l'arrivée des nouveaux sites de pornographie. Donc le changement du contenu du film pornographique en lui-même, qu'il est de plus en plus violent, que pour qu'une actrice puisse vivre de la pornographie, il faut qu'elle fasse des choses de plus en plus folles. Faut qu'elle tout s'est empiré et qu'il n'y a plus rien de naturel, de vrai finalement. Dans quelle sorte, si tout est vrai dans la sexualité, on peut tout faire, mais de commun, nous allons dire, de répandu. Voilà, ça m'a choquée aussi quand j'ai surpris une conversation dans des transports en commun de jeunes filles qui apparemment étaient tombées sur un porno de sexe oral jusqu'à vomissement, puisqu'elles se demandaient si elles étaient obligées de faire ça, si c'était normal de vomir après, si voilà. Donc là je me suis dit waouh, ok, il va falloir que je m'y prépare à ce sujet, vraiment, je suis enceinte. Donc ouais, il va falloir que je m'y prépare vite, parce qu'en fait ça a l'air de vite arriver. Qu'est-ce que je peux faire? J'avais été sensibilisée à l'éducation aux médias parce que je suis d'une formation dans l'informatique, et donc forcément on nous aborde, on nous apprend comment utiliser les médias, comment les protéger, et je sais qu'on ne peut pas empêcher notre enfant d'utiliser un média, que même si on a un contrôle parental, il arrivera à passer outre, qu'on ne sera pas averti de tout, voilà. C'est impossible de sécuriser, c'est comme on ne peut pas sécuriser entièrement notre maison, hein. C'est comme ça. Donc, c'est plutôt sur comment les éduquer, comment les éveiller aux médias. Et en plus, parce que les médias, c'est quand même formidable, cette avancée qu'on a eue avec Internet. Mais notamment, n'oublions pas les médias un peu plus anciens, les journaux, la radio, les podcasts maintenant, les nouveaux, la télé, tout ça. On parle de théorie du complot, on entend tout et son contraire. Comment faire le tri, comment savoir ce qu'est une fake news, on a déjà entendu parler. Voilà. Tout ça, pour moi, c'est un sujet réellement passionnant. Et Et je ne l'ai pas trouvé, donc voilà, un des épisodes. Mais peut-être que je me trompe. Et si c'est le cas, bah, je serais ravie que tu me renvoies l'épisode en question. Et sinon, bah, savoir si il est prévu pour toi d'essayer de faire un épisode, que ce soit sur l'éveil aux médias en général ou sur se baser que sur la pornographie. Je pense qu'il y a un épisode en entier à faire sur la pornographie et peut-être un autre sur l'éveil aux médias dans lesquels... Je pense aussi à juste titre qu'il faut inclure, et bon, je l'avais abordé avec Eric Greff le sujet, bah, les jeux vidéo, parce que c'est bien de jouer aux jeux vidéo, mais comment les limiter, comment les accompagner là-dedans. Je pense aussi qu'il faut aborder les films, hein. On a eu un épisode avec certaines séries Netflix que je ne citerai pas, où des enfants de 8 ans le regardent avec leurs parents et on a vu des dégâts dans les cours de récréation. Voilà, et moi je fais partie de ceux qui pensent que l'interdit, en fait, même si l'enfant fait quelque chose d'interdit, il y a un recul dans la chose qu'il fait parce qu'il sait que c'est interdit, il sait que c'est pas bien et il va du coup être plus vigilant dans ce qu'il fait et moins se le prendre en lui, en fait, moins l'ingérer, moins le subir à mes yeux. Mais ça, c'est un avis qui m'est totalement personnel et j'adorerais, c'est pour ça que je laisse ce message. Échanger sur ce sujet, avoir l'avis d'autres personnes et avoir des comptes pour m'aider, m'aiguiller, me faire grandir sur ce sujet et notamment peut-être croiser une association pour l'intégrer et pour aider si possible et apprendre. Merci.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Merci beaucoup Marion pour ta réponse, pour le sujet que tu amènes et que tu abordes. Il me semble en effet extrêmement important, voire essentiel. Alors, il y a plusieurs choses. En effet, il y a l'éducation aux médias, comme tu l'évoques, qui est extrêmement importante. Je pense qu'on est peut-être aussi, alors c'est un avis très personnel, hein, mais je pense qu'on est peut-être aussi perdu nous-mêmes parce que tout va très très vite en fait. On est passé... de médias où on avait beaucoup de documentaires, où à la télé on voyait des experts, maintenant ce sont des chroniqueurs qui donnent leur avis sur tout par exemple, à de l'information qui va vite, tu vois les formats sur les réseaux sociaux sont privilégiés plutôt à 30 secondes, alors c'est quelque chose qui évolue, là on est sur quelque chose qui évolue, on sait qu'aujourd'hui un réseau social comme TikTok augmente la durée de ses vidéos à 10 minutes par exemple pour essayer d'aller chercher un concurrent qui s'appelle YouTube, et ça donne aussi l'opportunité en fait, d'avoir plus de temps pour travailler les messages. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui vont très vite, je pense, et auxquelles il faut apporter une attention particulière. Je pense qu'en effet, les supports qu'on a aujourd'hui font qu'on veut aller de plus en plus vite sur la compréhension de sujets qui sont complexes. Et ça, c'est un vrai problème. Et en même temps, on a aussi le podcast qui évolue, qui est un format qui se développe, qui évolue, et comme vous pouvez l'entendre quand on discute, ou même dans ce format de réponse, on essaye de prendre le temps de dire les choses. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une étude qui est sortie récemment dans le milieu du podcast, où la durée optimale d'un épisode, même si moi je m'en fous un peu, mais bon, bref, la durée optimale d'un épisode serait de 37 minutes. En 37 minutes, on a quand même le temps de traiter beaucoup de choses sur un sujet, même quand on a un invité ou une invitée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est aussi pour ça que le podcast est un format important, parce qu'il va permettre, je pense au podcast vulgaire par exemple, d'avoir des informations pertinentes dans un format de divertissement qui vont être entre 7 et 15 minutes, globalement, sur le travail que propose Marine Baousson. Mais enfin, de divertissement en tout cas aussi souvent informatif, et ensuite on va pouvoir développer des échanges plus approfondis, que ce soit fait par des journalistes, avec des enquêtes, avec des spécialistes, ou du conversationnel comme ça peut être proposé dans mon podcast et dans d'autres. Donc voilà, on a ces formats-là qui émergent, mais globalement, aujourd'hui, ce qui prend le pas, c'est quand même un média où il faut que ça aille vite, et où on veut résumer les informations en quelques secondes. Il y a aussi une étude, alors j'avoue que je ne l'ai plus en tête, une étude qui était sortie sur qui lit l'intégralité des articles et qui lit seulement les titres et les sous-titres. Voilà, ça c'est quelque chose d'important aussi, parce que c'est un sujet que j'ai eu il y a pas longtemps, justement, avec l'épisode que j'ai sorti avec Annelise Ducanda sur les écrans, où des gens lui font dire des choses alors qu'elle n'a jamais dit ça, mais en fait ils ont juste lu des titres et des sous-titres d'articles. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir accès à la juste information, mais c'est pas facile. Donc en effet, l'éducation aux médias, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a, une responsabilité qui est et individuelle et collective, et en même temps, il y a aussi un sujet de société, c'est qu'aujourd'hui, tout doit aller très vite, de manière très simple, et c'est aussi ce que la société demande. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie démarche presque militante dans le fait de vouloir consommer des contenus qui vont prendre le temps. Ça veut dire aussi que nous, on prend le temps, et donc ça, c'est aussi une démarche, je trouve, un peu militante de ce point de vue-là. Voilà, et bien sûr, bon, je l'ai évoqué rapidement, mais voilà, moi, quand je vois la télé, si tu veux, où on va parler, j'en ai parlé dans un bonus, hein, on va parler d'éducation positive chez Estelle Midi, avec Estelle Denis, un gars qui est infectiologue, enfin, un docteur qui est infectiologue à la Salpêtrière, un économiste sportif et une journaliste lambda. Non, enfin, tu vois, moi, c'est ce genre de choses, et on voit ça chez Touche pas à mon poste, enfin, on voit ça partout. À un moment, où sont les contenus? Enfin, il y a de moins en moins de contenus facilement accessibles et représentés avec des spécialistes qui prennent le temps. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Hein, je pense à des émissions de radio disponibles en podcast, comme Grand Bien vous fasse, par exemple, sur France Inter. Il y en a plein, mais ce qui provoque le plus de réactions et de buzz, c'est malheureusement pas là où il y a des spécialistes et de l'info fiable. Donc, il y a déjà cette éducation aux médias. Oui, alors pour la faire aux enfants, il faut aussi qu'on se la fasse à nous-mêmes. C'était là où je voulais en venir. Je suis passé par un grand détour, mais c'est là où je voulais en venir. Et c'est pas évident, c'est pas évident, et moi le premier, pour moi c'est pas évident, tu vois. Par exemple, je vois bien, quand je suis sur une plateforme comme TikTok, à quel point c'est agréable et facile de se dire qu'on va aller sur des contenus qui vont nous dire des trucs en 30 secondes. Donc voilà, heureusement, comme je le disais aussi, c'est quelque chose qui tend à évoluer. Donc on verra où ça nous mènera, mais je pense que tu as tout à fait raison, je suis en total accord avec toi, dans le fait que la consommation, enfin l'utilisation des médias, l'éducation à l'utilisation des médias, c'est quelque chose d'important. Concernant la pornographie. Alors, la pornographie, c'est un sujet qui est extrêmement sensible dans la société, dans les mouvements féministes, et c'est quelque chose que je pense que je vais développer un jour dans un épisode, mais j'aimerais qu'on amène de la nuance, et c'est pas simple, tu vois, parce que d'un côté, il y a la réalité de la pornographie, il y a d'ailleurs un rapport du Sénat qui vient de sortir et qui est accablant, qui est vraiment accablant, des choses qu'on savait déjà, hein, mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le porno éthique, c'est une partie infime, mais vraiment négligeable de la production, et sinon, dans l'immense majorité des contenus, il y a énormément de violence aussi. Donc après, qu'on puisse créer des contenus pour adultes, oui, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les conditions de création, ce n'est pas du cinéma, hein, ce sont des acteurs réels. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où on assimile ça à de l'œuvre de production artistique. Et en même temps, donc, alors, je vais revenir sur mon propos, de l'œuvre de production artistique, et je pense qu'en effet, ça serait bien qu'on arrive soit à cadrer, soit à vraiment limiter au maximum tout ceci, même si je ne sais pas si c'est vraiment possible. Je pense que l'idée de l'abolition de la pornographie est une idée intéressante, mais, elle doit s'inscrire dans une réalité qui est celle que la pornographie existe aujourd'hui, qu'elle est extrêmement commune, qu'elle est extrêmement courante. On peut s'inquiéter de son évolution et peut-être cadrer son évolution dans un premier temps, et aussi en effet se rappeler qu'il y a des travailleurs et travailleuses du sexe qui en dépendent, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait des droits de ces personnes-là, qui méritent tous les mêmes droits que tout le monde. Donc voilà, là on a il y a un vrai sujet, je pense qu'il y a un vrai sujet de société à mener, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. Je pense qu'il y a une réflexion qui va au-delà de la pornographie dans son existence. C'est est-ce qu'aujourd'hui, si on avait un revenu universel décent pour tout le monde, est-ce qu'il y aurait autant de personnes qui iraient chercher des revenus, par exemple, dans la pornographie? Je ne sais pas, je pose la question, je ne sais pas. Je pense que c'est une question qui est extrêmement sensible, je n'ai pas de réponse précise à apporter, mais c'est un sujet que j'aimerais traiter un jour. Mais encore une fois, ce sera un sujet très sensible et que, voilà, il faudra que je m'arme et que je me blinde d'une carapace le jour où j'irai sur ce terrain-là. Mais c'est un terrain sur lequel il faut aller, en effet. Et enfin, ce que tu évoques aussi, c'est l'éducation justement à l'accès à ces contenus. Et là, je pense qu'il y a des comptes très intéressants, comme celui de Tessie van der Hagen, avec qui on a déjà fait Yes Test Famille sur les réseaux sociaux, avec qui on a déjà fait en effet un épisode sur l'éducation, justement, la sexualité positive. Il y a en effet des clés qui peuvent être données, et puis il y a quelque chose qui est très bien dans les pays anglo-saxons, enfin, ou au Canada, ou des choses comme ça, c'est qu'ils ont des espèces de rituels, alors que ce soit sur le porno, sur des sujets importants comme ça, sur le sujet de racisme aussi, il y a ce qu'ils appellent the discussion, tu vois, le moment où on va parler de ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui est assez ancré culturellement. On sait qu'on va devoir en parler, donc on va en parler. Et je trouve que c'est quelque chose de très sain, parce que ça montre aussi que c'est pas tabou, ça montre aussi qu'on peut en parler. Moi, je sais que je serais. Tu vois, par exemple, je ne pense pas pouvoir empêcher ma fille de consulter un contenu pornographique avant un âge qui me paraîtrait décent, parce qu'en effet, on l'évoquait avec Anis Dukanda et tu l'évoques aussi, il y a des enfants de moins de 6 ans qui accèdent à du contenu pornographique. L'âge moyen d'exposition au contenu pornographique est de 9 ans, donc faut quand même s'armer, hein. Voir une femme se faire attraper, insulter, frapper dans sa chair, dans son corps, et appeler ça de la sexualité entre guillemets normal, c'est quand même quelque chose d'assez violent. L'idée, en fait, si tu veux, c'est ok, si on peut pas prévenir, c'est un petit peu ce que tu développes, c'est comment on fait pour en parler. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche aussi. Donc en fait, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il faut d'un côté agir sur les contenus et d'un autre côté agir sur l'accès à ces contenus et d'un autre côté accompagner les parents sur ok, qu'est-ce que je fais quand mon enfant a eu accès à ces contenus. Donc j'ai cité Tessie, dont j'apprécie beaucoup le travail. Aux États-Unis, il y a aussi un compte, si vous parlez anglais, qui s'appelle Concerned Parenting. Voilà. Pourquoi est-ce que je cite ces deux comptes-là ? Parce que c'est aussi des personnes qui sont soit diplômées, soit qui ont développé des contenus extrêmement bienveillants et qui ne sont pas là pour tirer des sous aux parents. En français, je n'ai pas trouvé pour l'instant de compte qui remplisse les conditions auxquelles moi, que moi j'attends pour que je puisse en faire la promotion, en tout cas promouvoir le travail. Voilà, donc si jamais vous avez des ressources, des contenus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur mes réseaux sociaux, pour que je puisse partager, après avoir bien sûr consulté les contenus, et juste m'être assuré qu'il n'y ait pas un petit business derrière d'arnaque des parents, quoi. Parce que c'est toujours le problème avec ces sujets de parentalité qui sont très sensibles. Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, je pense qu'il y a un vrai sujet d'épisode. Je vais me renseigner en tout cas sur, en effet, l'éducation aux médias. Je pense que c'est un énorme sujet. Je pense que j'ai quelques pistes au niveau journalistique universitaire, donc je vais aller creuser par là. Et j'espère en faire un épisode à venir. Merci beaucoup, Marion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.